Salut les joueurs et salut les joueuses, nous sommes le 25 septembre 2014 et vous écoutez le 59e épisode de Proxy Jeux.
Je suis Jérémy.
Et je suis Olivier.
Et nous allons vous parler de jeux de société.
Et merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société. Et bonjour Étienne.
Bonjour.
On a la chance d'avoir Étienne Mineur des éditions Volumique avec nous. Il a fait le chemin. Alors, la chance d'être l'après-midi. Tu ne reconnaîtras pas le bonheur de partir avec les yeux fermés.
À 3h du matin.
Voilà, 2h du matin, en priant pour que ça s'arrête enfin. Merci d'être venu. Et nouvelle formule, une heure par...
Nouvelle saison, nouvelle formule, la vraie.
Une heure par épisode. Et merci à ceux qui nous soutiennent via le site de Patreon ou via des dons ponctuels. Donc merci à...
Romaric Briand, à Yannibus, à Blubu Grublu et Madame Blu, à Philippe Attali, à Emmanuel Lanche, à Antoine Strat, à Boob, à Yannick Desplay, à Siol.
Donc un épisode qui marque le démarrage de la nouvelle formule. Tu la rappelles, Jérémy, la nouvelle formule, s'il te plaît ?
Elle lève plus mieux.
Ouais.
Avec moins de
mais
produits.
Moins de produits.
Ouais. Elle dure que 4 heures et plus 6 heures. Moins 33%, mais beaucoup plus efficace. Donc, on va faire, on enregistrera toujours pas une seule fois par mois, mais on mettra 4 épisodes en ligne. Donc, un, comme d'habitude, avec les news. Vous verrez, petite nouveauté, on va avoir, Ludovox qui participe.
Tout à fait. On a enregistré juste avant de commencer, puisque Étienne est venu avec une démo, donc on a, on a un peu décalé sur notre programme, mais on écoutera Marilyn juste dans la partie actu.
Voilà, après on aura une partie, ben, l'invité justement, donc Étienne, qui va nous parler, on va essayer de le limiter à une heure.
Ah,
je sens que ça va être difficile quand je vois le temps qu'on a passé sur la démo avant, mais on va essayer.
Oui, c'est très intéressant.
Ah bah sinon après ils vont se moquer de nous les gens, hein, si on ne tient pas les 4 fois une heure.
Je ne vais pas m'inviter.
Après il y aura la partie « Je suis perdu ». Il y a les chroniques, c'est ça, avec le Do It Yourself, le jeu de rôle. Et puis la dernière partie qui sera les présentations des jeux telles qu'on les faisait jusqu'ici.
Ah non, non
enfin,
pas,
avec
non, non.
Une petite différence. Non, bah, on fait une présentation de jeux, mais en plus, non, encore une nouveauté, on interview les auteurs et nous présente même les jeux.
Voilà, on nous a réclamé un peu plus de profondeur. On a décidé que les auteurs étaient les mieux placés pour parler de leurs jeux, nous donner un petit peu du contexte, la stratégie, nous parler de ce que, comment la genèse de leurs jeux. Et donc, on a commencé par demander ça à Bruno Catala. Pour Five Tribes. Mais avant tout, comme d'habitude, un petit retour sur les commentaires du site. J'aime bien, parce que j'aime bien que vous laissiez les commentaires. Alors, je tiens à vous répondre. Une réponse à Katika Somi qui dit que on n'est pas très gentil, qu'on a parlé de Donjons & Dragons 5, mais avec dédain. Alors, absolument pas de dédain dans ce message-là. On ne connaît pas assez bien Donjons et Dragons 4 et on ne saurait pas bien parler de la différence de DD4 et DD5. C'est juste pour ça qu'on n'en a pas parlé en fait. C'est absolument pas du dédain, on a vraiment envie d'en parler, mais il faut avoir joué à toutes les éditions pour pouvoir en parler bien. Jocelyn, tu lui as répondu sur Marabunta, il a dit qu'on était un peu trop dur. C'est vrai.
Oui, c'est possible. En fait, on avait oublié un peu. Bah, des fois, il passe un peu sous le radar. Même Marabunta, il va passer sous le radar de Proxy Jeux. Bah oui, bah c'est vrai, mais c'est, en même temps il y a des choses, je sais plus, quand on a parlé de Marabunta c'était un peu non préparé, donc
ah bon,
et oui, c'est étonnant. Donc dans ces moments là on se base que sur la mémoire qui nous vient directement, et effectivement peut-être que
et puis, coup, ça nous avait échappé. On s'attend peut-être à voir un foison de jeux sortir, et ils ont des gammes et en fin de compte la gamme elle s'étoffe doucement, et on attend, nous tu vois, on est comme des groupies, on attend qu'il y ait beaucoup de choses qui sortent avec lui. Truc, bah, bref. Job 314 qui fait constat que on peut voir pour Istanbul, donc il fait constat que pour Istanbul ça lui semble un peu trop accessible pour un Kennerspiel. Il dit que c'est à partir de 8 ans et il dit qu'on en attend peut-être un peu trop, on attend un petit peu plus pardon pour un prix expert en fait. Alors je dirais qu'il y a peut-être eu un nivellement vers le bas, notamment avec le jeu de l'année qui est
Camel Up.
On pouvait pas, enfin ça faisait c'est un jeu très accessible sans doute, et ils ont peut-être voulu pas trop
on va en reparler dans
de
les
gaps en fait.
On va en reparler dans les news justement. J'ai eu quelques interviews intéressantes de membres du jury du Spiel, donc voilà. Mais bon, après non, mais surtout qu'Istanbul en plus, on n'était pas très, nous on n'est pas très chaud. C'est pas notre genre de jeu. Voilà. Pour nous, l'interaction, ça doit aller plus loin que ce qu'il y a dans Istanbul. C'est plus loin qu'une course juste sur le plateau.
Et puis je me suis un petit peu, j'ai dit que je trouvais pas les jeux de société sur le site de Mademoiselle. On vous met le lien sur le site de l'émission. C'est Mademoiselle mot-clé jouons en société. Enfin, mot-clé, hein. Attention, c'est pas une vraie rubrique. Hein. C'est un moteur de recherche. Bon, bref.
Mais ça viendra,
on peut trouver, on peut trouver. Donc n'hésitez pas à aller les voir parce que c'est. C'est les rares qui en parlent, c'est bien. Vous n'êtes pas la cible, mais c'est pas grave, c'est bien. Voilà. Et puis surtout, JCH qui aime bien les discrétions. Alors moi, je dis big up à JCH, et puis on va en faire encore. Ne t'en fais pas.
Attends, sur iTunes aussi, les commentaires, il y a Justin.
Ça, c'est pas.
Il y en a,
Justin,
il y a un commentaire.
Justin nous a écrit.
C'est Justin, non, c'est.
C'est
Gatsras, je sais pas comment on dit son pseudo, qui apprécie le podcast, mais il demande comment est-ce qu'on peut trouver. Les lives, alors en fait ils sont en haut à droite sur le site, sur podcast.proxyjeux.fr. Il y a en haut à droite, je mets tout le temps la date dès qu'elle est connue du prochain live avec l'heure et le lien sur Mixler.
Puis des fois on la change.
Des fois on la change, mais globalement non, et on la tweet. En plus on la tweet en général plusieurs jours avant pour tenter d'avoir du monde.
Des fois,
ils sont 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est un peu différent, non, juste dans l'après-midi. Il y a même Philibert qui nous écoute du coup.
Ah, on est retransmis en direct chez Philibert.
C'est directement dans la boutique, ouais.
Merci Philibert. Voilà, donc merci à ceux qui mettent des commentaires. N'hésitez pas, hein, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, vous nous connaissez maintenant, il faut que vous vous exprimiez sur notre travail. On passe à l'actu, Jérémy ?
Juste avant, parce que l'introduction a été presque trop courte. Non, on est dans le numéro 69 de plateau quand même.
Ah.
Quand même, l'air de rien, parce que si vous vous rappelez, Damien André, il est venu enregistrer avec nous un épisode, c'était en février, donc vous avez dû l'écouter il y a 6 mois en mars, et on avait parlé de plateau, de la presse papier, choses comme ça, ouais. Et en fait, parce que lui derrière, il préparait un article sur Proxyjeux pour plateau, et ils ont enfin réussi à trouver un numéro dans le mail, ce sera dans le 69 disponible. Alors les abonnés l'ont déjà reçu, et sinon il sera dispo le 29 septembre, je crois, en boutique.
Alors, cette actu, l'actu post-été, pré-SN, très chargée. On va la commencer par une chronique de Dédé Schutz. Dédé nous parle aujourd'hui de... Est-ce que tu l'as écouté, sa chronique ? On leur a mis la pression.
J'ai tout écouté parce qu'ils ont tout livré avec une semaine d'avance. C'est impeccable. Super, les gars, continuez comme ça.
Un grand merci à la team. Ils ont fait, du bon travail. Ils sont associés. Ils ont vraiment fait pour qu'on puisse avoir un nouveau numéro qui soit plus satisfaisant pour vous. Dédé Schutz nous parle des jeux minimalistes et répond à la question « Qu'est-ce qu'un jeu minimaliste ?»
Proxyjeux présente le jeu expliqué à ma grand-mère. Deck building, 4X, metagame, vous allez enfin comprendre tous ces mots barbares.
C'est quoi un deck building ?
Salut les mamies, bienvenue dans cette chronique pour les personnes âgées réalisée par un ado. Aujourd'hui, une question de Gerny Lolo. Écoutons ce qu'il a à nous demander.
C'est quoi un jeu de société minimaliste ?
Un jeu minimaliste, c'est comme une chronique minimaliste. Et une chronique minimaliste, c'est ça.
À bientôt !
Non, je ne vais pas vous laisser comme ça dans votre ignorance ludique. Je ne suis pas du genre à abandonner les mamies sur l'aire d'autoroute en plein mois de juillet. Je ne vais pas non plus comparer les jeux minimalistes à la taille de vos attributs phalliques, sinon on va encore me dire que je fais de l'humour de collège. Donc un jeu minimaliste, c'est un jeu dont la mécanique ou le matériel est minimal. Pas besoin de raser une forêt pour prendre du plaisir. Et là, je parle toujours de jeux de société et non pas d'épilation pubienne. Parmi les plus récents et les plus connus, on peut citer Love Letter et Brave Rat, deux jeux de Senji Kanai qui s'est fixé comme limitation pour ces jeux de n'avoir que 16 cartes. On peut aussi citer Skull and Roses, qui se joue avec quelques sous-bocs. Oui, car un jeu à mécanisme minimaliste a souvent peu de matériel. Rajouter du matériel implique rajouter des mécanismes. Personnellement, je pense que les auteurs de jeux minimalistes ne sont pas très doués en do-it-yourself, et que si Senji Kanai n'a découpé que 16 cartes, ce n'est pas par défi, c'est juste qu'il ne pouvait pas faire plus. Je vous rappelle que c'est un ancien Yakuza et que c'est difficile d'utiliser une paire de ciseaux quand il vous manque des phalanges à l'index. Ou à l'Inde de Tokyo pour faire plus japonais. et les sous-bocs de Skull and Roses. On se dit, waouh, quelle superbe idée marketing, le duo américano-chinois bien connu. Mais en fait, point d'idée de génie, c'est juste qu'Hervé Marley est un gros alcoolo. Et que quand il dit à sa femme, ouais, je vais au boulot travailler sur mon jeu, et en fait, il va juste siffler des bières avec ses potes au bistrot. Attention quand même, jeu minimaliste ne veut pas dire jeu simpliste. Ce n'est pas parce qu'il y a peu de règles que le jeu est forcément sans profondeur. Et il y a souvent des raisonnements implicites qui valent des jeux plus complexes. On se plaint souvent du prix des jeux, mais on veut des jeux avec d'innombrables mécanismes et un matériel digne d'un film à gros budget. Alors pourquoi ne pas profiter des jeux minimalistes pour sauver un peu notre budget ? Au moins quand on achète un jeu qui se déclare minimaliste, on ne va pas après râler car la boîte est trop vide. Je ne saurais trop vous encourager à jouer à des jeux minimalistes, des jeux dont les auteurs ont gardé uniquement le meilleur et ont supprimé tous les mécanismes accessoires qui ne servent qu'à complexifier les jeux pour les masochistes du cube en bois. Vous savez, les joueurs qui veulent toujours rajouter les variantes experts, vous savez, ces joueurs de Perudo qui rajoutent la règle du calzone et du garifico, je m'égare. Essayez donc les jeux minimalistes, même en do-it-yourself. Et si vous êtes aussi doué que Senji Kanai, commencez par Coinage. Il n'y a qu'une carte à découper. Voilà ce qu'est un jeu minimaliste. Peu de matériel, peu de règles, mais beaucoup de plaisir de jeu. On se retrouve le mois prochain, et d'ici là, jouez bien.
À bientôt !
Je te propose, Jérémy, qu'on parle d'abord des récompenses ludiques.
C'est la saison.
On va écouter ensuite, je fais un petit peu de teasing, ensuite nous écouterons Marilyn, je l'ai enregistrée juste avant que vous arriviez. C'est Ludovox, Marilyn Chanouillette, que vous avez écouté également dans l'épisode rose et qui revient. Avant tout, on va parler des récompenses ludiques et puis on l'écoutera tout de suite après. Le Deutsche Spielpreis remis à Russian Railroads, encore.
Voilà, c'est tout dit. Russian Railroads, bah non.
Très primé.
Un jeu très primé pour Core Gamer. Pour une fois, le prix va vraiment à un jeu gamer par rapport au Kenner Spiel qui était allé à Istanbul, justement.
C'est ça. Istanbul, Russian Railroads, oui, ok.
Voilà. C'est juste. On est dans les brèves maintenant, donc c'est une ligne.
Tu as une remarque, une réaction sur Russian Railroads ? Est-ce que c'est le type de jeu auquel tu joues ? Parle bien dans ton micro.
Ouais, non, pas trop. Enfin, on est assez large, nous, mais on aime. Je connais pas trop ce jeu, donc je peux pas.
C'est de la pose d'ouvrier et c'est assez.
Ah non, très
bon, voilà.
Ça m'intéresse, mais honnêtement.
Tu aimes l'interaction,
ouais,
pareil.
Beaucoup plus forte, axé, ouais, sur l'interaction. Alors, les jeux américains, mais d'autres, hein, mais j'en parlais tout à l'heure, par exemple, c'est un très très vieux jeu, mais Rencontre Cosmique, par exemple, qui est peut-être de 76, je crois. Où là, c'est la quintessence de la. Ah, il faut que je parle encore.
Parle bien,
ah ouais, mais vraiment.
Toujours
mon micro.
Voilà, c'est ça.
Voilà, comme des Rencontres Cosmiques. Où là, on a joué beaucoup à. Alors, Battlestar Galactica tout le temps, mais là, dernièrement, avec David, on a pas mal joué à Android Netrunner. Alors là, en jeu de cartes, c'est juste extraordinaire. Mm-hmm. Moi, j'ai pas joué à l'original, mais c'est quand même grandiose. Hein.
Donc, quand tu dis on, c'est le.
Avec David Calvo, un des auteurs du jeu, là, de Mondoyo. Voilà. Oui, parce que c'est un jeu asymétrique, mais
éditions.
À deux. Hein.
Ouais,
voilà. Ah oui, quand je dis on, c'est les éditions volumiques, hein, pardon. Je ne me parle pas de moi à la troisième personne, pas encore.
Oh, tu pourrais, hein, ça ne nous dérangerait pas.
Mais... Voilà, non. Mais. Voilà.
Un autre prix, les trois lys. Donc, nos amis.
C'est juste les nominés pour l'instant.
C'est quoi, canadiens ?
C'est les Canadiens, ouais. C'est les nominés, on va peut-être pas tous les lister, ça va être un peu long. On retrouve dans les jeux passionnés, on retrouve Russian Railroads par exemple, on va retrouver justement Netrunner, dont on parlait, ou Mice and Mystics.
Et puis pour les enfants, Trois Petits Cochons, dont on a parlé pas mal. Et Vite Cachons-nous. Alors, Vite Cachons-nous, vous savez comme j'aime ce jeu. Si c'est Cache-Mouton. Avec une marionnette à doigts et des petites chèvres, pardon. c'est pas des cochons. Des petites chèvres qu'on cache dans les meubles en carton, c'est très très bien. Donc, les nominés, vous les retrouverez sur le site. On va très très vite, hein, ça change. Vous aimez pas les digressions. Ben voilà, ça y est, c'est pour ceux qui nous ont fait des remarques. Et ben voilà.
C'est pour donner des listes de jeux, je sais pas si ça vous.
Non, c'est mieux aussi. Les nominés IGA aussi.
Alors,
qui
attends,
sont apparus,
International Gamer Awards. Donc, on rappelle rapidement, c'est une fois par an. Attends, je vais ouvrir le lien en même temps. Le jury, c'est en fait des gens des mondes du monde du jeu, d'un peu tous les pays, c'est pour ça que c'est international. Ouais. Il y a Monsieur Fall, je crois, d'ailleurs, dans le jury pour la France. Je ne sais plus comment ils sont. Et donc, ils choisissent des jeux. Alors, attention, là, il n'y a que deux catégories. C'est le multiplayer.
C'est le hardcore gamer et le
hardcore gamer pour deux joueurs. En gros, c'est ça. Alors là, les nominés, effectivement, c'est un cran au-dessus. On va retrouver. Alors, si, il y a Abluxon, alors c'est un petit jeu de cartes sur Ravensburger qui doit s'appeler Linko ou un truc comme ça, je crois en français. Il y a Caverna de Uwe Rosenberg, donc déjà plus gros, Concordia. Alors il y a Freedom, là, Underground Railroad, on en reparle un peu après, qui est un jeu coopératif où il faut faire s'échapper les esclaves, qui a déjà été nominé aussi dans les Dice Tower. Bon, il y a le fameux Istanbul, on n'en reviendra pas dessus. Il y a le Testament du Duc de Crécy, Lewis et Clark. On n'est pas très étonné en fait, hein, de la sélection, ceci dit, c'est Nation. Et puis donc Russian Railroads, un petit jeu de train, Spirium, voilà. Et dans la catégorie 2 joueurs, là, on retrouve le Battle Lore seconde édition. Ça, c'est typique, on sent vraiment derrière la...
La pâte américaine.
Ouais, la pâte américaine du jury. Il y en a un que je ne connais pas, Fungi, qui est chez Pegasus, chez Rebel, etc. Ça ne me dit rien du tout. Heroes of Normandy, qui est déjà là alors qu'il vient de sortir il y a, quoi, il y a quelques mois.
Ça fait un très long moment qu'on en parle aussi.
Ouais, voilà. Limes, qui est une réédition de Cities de Martin F, que j'avais acheté à Essen, éventuellement on en parlera. J'aimerais juste vérifier à Essen que Limes, c'est le même jeu exactement que Cities. Dans ces cas-là, je vous en parlerai prochainement parce que c'est très bien. Je pense qu'il sera, j'espère qu'il sera distribué en France. Et puis il y a Pagoda, un autre jeu pour deux joueurs chez White Goblin et Pegasus, pas en français pour l'instant. J'ai quand même craqué déjà pour une version. Je vous en dirai plus si c'est bien, et en espérant dans ces cas-là qu'il soit trouvable en France.
Donc une sélection qui est beaucoup plus joueur, avec des jeux qu'on rencontre déjà depuis un petit moment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de grosses nouveautés en fait. Est-ce que c'est moi ou pas ?
Des grosses nouveautés, Pagoda, Limes, c'est quand même un truc nouveau pour les jeux à deux. Après, ce qui va gagner, c'est, je pense, pas des jeux. Je suis étonné en fait, de voir des jeux aussi simples, entre guillemets, que Pagoda ou Limes face à du Heroes of Normandy et Battle. En général, plus je joue gros, plus il a des chances de gagner dans ce jury-là. Donc c'est pour ça, dans les récompenses ludiques, on a un peu de tout là aujourd'hui.
Oui, rappelle-toi, un petit jeu de cartes, tu sais, Anabi.
Ah ouais, qui se rappelle 700 000 boîtes vendues. Voilà.
Et puis c'est aussi le jeu de l'année en Italie. Et là, la sélection, elle est un petit peu différente. Elle est aussi différente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aller voir les différentes sélections pour vous faire un avis. Le Petit Prince, la Boca, 8 minutes pour un empire, Steam Park, donc quelque chose beaucoup plus léger. Avec,
Steam Park, c'est la seule fois, je pense, qu'il est nominé. C'est un petit peu...
Grâce à Cranio.
Oui, c'est parce que Cranio, et voilà, c'est de la production
Mais c'est superbe. Hein, graphiquement et détaillement, c'est vraiment... J'aime beaucoup.
C'est pour ça qu'il est dans la section.
Et puis après, des choses un tout petit peu plus... Dungeon World. Hey, Dungeon World.
C'est pour la règle, non ?
Jeu de rôle.
Ah non, jeu de rôle.
C'est Dungeon World qui va gagner. Et puis des choses que je ne connais pas. Et en plus, qui sont en italien. Tedeschi. Ah mais c'est... Non, c'est quoi ? Toi qui as fait de l'italien ?
Hein ? Je sais pas. Tedeschi.
Ça vaut le coup hein, de faire de l'italien. C'est mon accent que tu remets pas.
Ça doit être ça. Donc c'est trois quelque chose.
Voilà.
Et jeu de l'année en Espagne. Ouais. Donc on est dans les sections. Alors ils sont, c'est différent. C'est Augustus. Ouais. On retrouve qu'il y en avait déjà
encore.
Vu.
Encore.
Ouais. Il y a Camelop. On voit qu'ils sont passés après les Allemands là-dessus. Parce que je pense pas. Sinon je suis étonné. C'est le jeu qu'on connaissait pas avant qu'il soit mis en avant par le Spiel. Il y a Concept. Donc on retrouve une sélection pareille du Spiel. Il y a Jaipur en jeu à deux qui a dû sortir récemment en Espagne du coup, qui est un très très bon jeu à deux que je vous recommande chaudement. Marrakech, pareil, un jeu qui en a en France depuis une dizaine d'années.
Tu connais le Monopoly ?
Ouais.
Bah Marrakech c'est pareil, mais c'est mieux. C'est juste trop, plus intelligent et moins hasardeux.
Et c'est très bien aussi, très bon jeu familial. Et puis il y a... 18 soldats du feu, non, ça. Alors là ils l'ont appelé Rescate, je sais pas comment dire en espagnol. Mais c'est Flashpoint. Ouais. Son vrai nom, et eux, ils ont au moins gardé la couverture américaine du pompier américain plutôt que le calendrier des pompiers de Paris.
Et encore. Ouais, bref.
Un jeu coopératif qu'on vous recommande aussi. Ouais.
Voilà, donc le condensé des jeux de l'année un peu partout. On avait fait très très long l'année dernière, en fin de compte, c'était pas forcément très intéressant. Allez voir les sélections. Ça vous donne une idée sur vers lesquels vous orientez. Et puis moi, qu'est-ce que t'en penses, Étienne, des jeux de l'année ? Est-ce que c'est un choix pour t'orienter vers un jeu ? Ou alors est-ce que tu
non,
regardes
honnêtement,
pas ?
Honnêtement, je regarde pas
le public.
Ça. Non, je suis pas le public. Ouais. Je vais directement chez les éditeurs, voilà, voir ce qu'ils
sortent. Parce que nous, des fois, on regarde et tu dis, tiens, il y a tel jeu. Bon, ça dépend. Chacun a son prix qui lui correspond. Donc on regarde International Game Awards, par exemple, il y a des fois des jeux qui sont nominés. Je me dis, tiens, ça m'interpelle, je l'ai pas vu
passer.
Ouais,
c'est plutôt pour les enfants. Moi, j'ai deux enfants, ouais. un 11, 25, c'est plutôt là. Enfin, pour moi, je me débrouille tout seul, on va dire. Ou j'ai des amis autour de moi voilà, qui vont m'indiquer voilà, tiens, tu devrais essayer ça, voir ça et tout. Et puis, c'est plutôt pour les enfants, en fait. Voilà, dire tiens. Par exemple, honnêtement, j'ai découvert Andorre, donc l'année dernière, hein, de Yellow. Enfin, de Yellow. De, c'est Ravensburger. Non, qui
c'est Cosmos.
Cosmos, voilà, pardon. Et vraiment, moi, je l'aurais pas pris à la base, mais en fait, je me suis éclaté avec un garçon de 11 ans. C'était génial, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est des types de jeux.
La mise en avant a aidé à le trouver.
Quoi. Ouais, ouais, exactement. Voilà. Ça, c'est, ouais, donc, c'est plutôt pour les, ouais, pour les enfants pour ou famille, pour faire des cadeaux, des fois aussi. On se dit, tiens, des gens qui sont pas gamers, en fait, dire.
Oui, Eclipse, c'est pas le bon point.
Ouais, ouais, voilà, ou Fortune de mer, on en parlait tout à l'heure, voilà, comme cadeau, Fortune de mer pour commencer, c'est bon, c'est un peu lourd. Mais non, mais c'est plutôt là, voilà, c'est plutôt intéressant de voir ça.
Ok,
très bien. Alors, ça, c'était les récompenses ludiques.
Non, j'ai quand même le focus, c'est sur une interview de Tom Felber, qui est membre du jury du Spiel.
Ouais.
Je vous mettrai le lien, mais c'est un article en anglais, donc comme ça, je vous fais le résumé. C'est très intéressant. Il annonce plein de choses et on va s'apercevoir que le jury du Spiel, il est comme plus rigoureux dans son fonctionnement, par exemple, que celui de Last Door.
Oh,
jeu de l'année.
Une attaque.
C'est pas une attaque, c'est un constat. Et si vous voulez vous en persuader, il faut que vous remontiez à la chronique il y a un an et demi à peu près. On avait fait une interview de Martin Wittberg qui nous expliquait comment très marchait bien. Le Last Door.
C'est juste indispensable. Enfin, c'est pas indispensable, mais ça éclaire vraiment le fonctionnement du prix, voilà. et leur approche en disant de toute façon nous on aime le jeu, on veut en mettre un, on veut faire un prix spécial, on fait le prix spécial quoi. Donc je vois pourquoi tu parles d'être carré et d'être plus
voilà. Et alors même dans leur façon de faire en fait. Donc pour rejoindre le jury déjà, pour être membre du jury du Spiel, il faut être journaliste d'un journal reconnu en allemand. Bon, ça on est un peu pareil dans Last Door, il faut quand même que ce soit des gens qui puissent relayer au niveau des médias, ça c'est important. Mais la grosse différence avec le Spiel, c'est qu'il faut pas avoir de lien avec l'industrie du jeu. Pas même un membre de ta famille. Autant dire que chez nous, c'est l'inverse qui se passe, c'est que c'est plutôt en général des gens fortement impliqués, des jeunes dans le milieu, etc., qui vont servir de jury. Après, c'est un positionnement différent. Ce qu'il leur demande, c'est qu'il faut être très informé, évidemment, de tout ce qui sort, il faut beaucoup jouer. Ils ne regardent que les jeux qui ont des règles en allemand et qui sont disponibles en allemand, mais ils en testent quand même presque 500 par an. Et ils y jouent vraiment, eux, quasiment à tout ce qui passe, à tout ce qui sort. Tom, il dit qu'il a un local spécial pour jouer et stocker ses jeux. C'est-à-dire que c'est pas chez lui, c'est un autre endroit où il reçoit ses amis et il joue. C'est sa garçonnière, si tu veux, à jeu, quoi. Chacun fait ce qu'il veut.
N'est-ce pas ?
Et il annonce jouer à entre 25 et 30 soirs par mois.
Ah oui, cool.
Autant dire que ça se demandait ce qu'il fait les quelques soirs qui restent.
Il se repose le dimanche,
c'est énorme. C'est énorme. Je vous le dirai à la fin, mais ils font ça bénévolement, évidemment. C'est vraiment la passion qui prime, quoi. C'est assez impressionnant.
Tu joues 25 jours dans le mois.
Bah, il te reste 5 jours, quoi, en gros. Même pas 4 jours.
Il dit 25
jours,
soirs, quoi, ouais. C'est-à-dire tous les soirs de semaine.
Tous les soirs. Ouais.
Mais ce qui est horrible, c'est combien est-ce que sur les 25, il y en a combien de bons auquel t'as envie de jouer.
Et surtout, il doit pas rejouer au jeu qu'il a aimé, puisque c'est ça surtout.
Alors vous allez voir,
il était super bien. Mais
vous allez voir, je pense que si ils en soupent le jeu qui est Spiel, ils en soupent quoi. Mais ouais, il y a des jeux. Non, mais ils regardent bien. Si jamais ils ont envie d'y rejouer, ils vont le garder. Et sinon, il va sortir. Au niveau de l'organisation, ils ont un forum privé entre eux, entre les membres, en fait, où ils échangent leurs impressions tout au long de l'année. Donc ça va les guider sans doute dans ce qu'il faut, sur lesquels il faut qu'ils mettent l'accent sur les 500. Et en mai, ils proposent chacun une liste de 15 jeux qu'ils aiment. Et puis ils se retrouvent pour une session de 4 ou 5 jours où ils jouent à tous ces jeux, donc ça en fait 50-60. Ils vont les jouer ensemble, ils vont les commenter, etc. Ils vont y rejouer plusieurs fois. Et à la fin, le but, c'est de réduire tout ça, ces 60 jeux, à une liste de 15 jeux. Et pour cette liste de 15 jeux, il leur faut l'unanimité des membres. Donc tant qu'ils ne sont pas d'accord, ça continue. C'est un peu comme le pape. Et après, si jamais ils vérifient dans cette liste de 15, ils vont avoir un jeu qui rentre dans chaque catégorie, jeux A2, jeux abstraits, etc. Si c'est pas bon, ils en rayent un de la liste des 15 et ils vont piocher le premier de la catégorie qui manque dans ce qui suit. Bonjour la panique. Hein.
Je veux dire, c'est comme les papes, ils brûlent ceux qui sont les plus mauvais pour faire de la, ouais, de la fumée blanche ou noire, c'est ça ?
C'est ça, ils sont obligés. Donc, ça ne peut pas être tout à fait simple, mais ils font comme ça. Et donc, ensuite, ils vont faire, parmi ces 15, ils vont faire chacun leur liste des 3 jeux qui sont pour chaque prix. Donc, pour le Spiel, le Kennerspiel et le Kinderspiel. Et ensuite, ils comptent un point par voix, et celui qui a le plus de voix, enfin les 3 jeux qui ont le plus de voix, ils sont sélectionnés. C'est comme ça que cette année, on arrive avec une drôle de sélection, avec 3 jeux de catégorie bien, qui boxent dans des catégories différentes, mais dans le même prix. Une fois qu'ils ont fait ça, il leur reste 40 jours avant la révélation du lauréat. Comment ça se passe ? Eh bien, ils vont jouer, encore une fois, beaucoup à ces 3 jeux nominés dans chacune des catégories. Et ils vont faire près de 50 parties de chaque.
50 ?
Ouais, 50 parties. Tu te vois jouer 50 fois à Camelot, concept. Même à Splendor, je ne ferai pas 50 parties. Et il va falloir qu'il joue tout ça pour se donner pour vraiment se donner une opinion. Bon, il dit ça, peut-être que certains jeux, ils n'ont pas besoin d'en faire 50 fois. Hein, mais et ils se réunissent quelques heures avant. C'est ça qui m'a le plus étonné. Alors, quand il dit quelques heures, je ne sais pas si c'est la veille ou c'est le matin même, avant la révélation du lauréat, ils se réunissent et c'est là qu'ils dépouillent et qu'ils décident qui aura réellement le prix. Je pense que c'est la veille, puisqu'on voit qu'en général, c'est déjà, tu sais, ils cachent sous un drap et ils lèvent pour montrer qui est le gagnant. Je pense pas qu'ils vont décider encore, alors que la presse est en train de s'installer dans la salle. Mais vraiment,
au dernier moment,
je pense que c'est vraiment dans le dernier week-end qui précède.
C'est pour ça qu'ils voulaient pas mettre ça, mais ça, ils se sont trompés de boîte. Ouais, c'est le dernier moment, ils ont mis Camel Up. Bon, d'accord.
On leur a vite demandé de débarrasser le truc, ils ont oublié. Donc voilà. Voilà comment ça fonctionne. Le financement, il en touche deux mots. En fait, il dit que, évidemment, les membres du jury ne sont pas rémunérés, mais que le prix, il a un grand coût de représentation à travers les conférences, à travers toute la publicité qu'il va tenter de faire autour pour promouvoir le jeu. Donc, ils vont prendre entre 2 et 3% du chiffre des ventes, en fait, des boîtes qui posent le logo. Ça, je le connaissais. Et comme, de toute façon, le fait de mettre ce logo quand tu es gagnant, ça te permet de vendre au moins le pire des jeux, c'est vendu à 200 000 exemplaires. Et ça peut être jusqu'à 700 000 comme Anabi, et c'est pas fini.
Donc, le pire des jeux.
Bah oui, le pire, entre guillemets, c'est celui qui s'est le moins bien vendu dans les Spiels, c'est 200 000 boîtes vendues.
Ouais, c'est vrai.
C'est déjà pas mal.
Oui.
Voilà. Et alors après, juste après, dans une autre, il y avait un autre article avec notre interview. Ce qui est intéressant à savoir, c'est juste qu'il dit que ce prix récompense pas le meilleur des jeux, mais le but, c'est de faire la promotion du jeu. Donc pour eux, c'est le jeu le plus accessible à tout public. Là-dessus, en soi, c'est sûr que Camel Up, il est quand même plus accessible que Splendor. Mmh. C'est sur cet aspect-là. En général, ils cherchent quand même un jeu qui est un petit peu innovant et en même temps qui reste accessible au public. Parce qu'il dit, les Allemands, ils ont beau être joueurs, ils consomment. Ils achètent un peu ils savent pas, en fait, ils savent pas quoi acheter dans les rayons. Donc le fait d'avoir le Spiel, d'avoir le logo, ça les aide à choisir, parce qu'ils achètent pas tant de jeux que ça. Enfin, je pense qu'on achète plus de jeux que la plupart des Allemands, nous qui sommes trop passionnés par rapport à, voilà. Mais bon,
c'est comme les prix en littérature, le prix Goncourt. Exactement. Le prix, voilà, tu sais
c'est
pas
ça.
Trop quoi acheter à Noël, bon ben voilà, le prix Goncourt, t'es sûr de pas te tromper a priori.
Ouais, là normalement voilà. Tu vas, voilà, c'est exactement la même chose. Donc ils vont acheter en gros un jeu dans l'année, c'est celui-là. Donc avec Anabi l'année dernière, ils avaient un petit peu plus de budget, ils pouvaient en acheter un autre comme ça.
Très bien, bah écoute, effectivement, c'était intéressant de faire un focus là-dessus, parce qu'on on a vite fait, en fait, de jeter le bébé avec l'eau du bain, de dire ah oui, mais quand même, c'est dégueulasse.
Voilà.
Et c'est bien de remettre un petit peu ça en perspective et de se dire qu'il y a un vrai travail là-dessus et que c'est pas du hasard.
Oui, ça fait beaucoup, il passe beaucoup de temps à jouer quand même.
Je te propose qu'on écoute Chanouillette, qui nous parle Marilyn, qui nous parle de ses sorties d'Essen. Ça vous va ?
Allez, c'est parti.
Bonjour Marilyn.
Bonjour Olivier.
Comment vas-tu ?
Ben ça va, je suis très contente d'être là.
Pas trop de travail avec votre site ?
Oh si, mais bon, on aime ça.
Tu peux nous en dire deux mots ?
De Ludovox ?
Oui.
C'est le site qu'on a lancé il y a 3 mois, ça va presque faire pile 3 mois, ouais. Voilà, site d'actu, ludique, on essaie de faire un truc bien, donc il y a des petites news qui arrivent tous les jours, il y a des previews, il y a des articles de fond, des interviews, des vidéos, des podcasts.
Des podcasts également, on va en parler ou on en a parlé.
des copains à vous qui sont venus faire des podcasts et des vidéos chez nous.
Tout à fait.
Je pense à Merlin, je pense à Fendwell.
Et tu nous fais l'extrême gentillesse de venir participer à notre podcast en mettant un petit peu d'actu, un peu plus d'actu, parce que nous, on s'éloigne de plus en plus du concept. Et donc, ben, tu as la gentillesse de vouloir bien participer. Je te remercie beaucoup. Et pour cette première participation, tu voulais nous parler d'Elisa Tig. Alors, on commence fort, on commence dans le charme.
Bah, oui, parce qu'en fait, comme j'avais eu l'occasion de vous rencontrer à l'occasion de l'épisode rose,
ouais.
On avait bien rigolé d'ailleurs.
J'ai beaucoup bu surtout. ceux qui sont sur Twitter vont nous comprendre.
C'est des mensonges. Donc j'en profite parce qu'aujourd'hui c'est la fin. Alors je sais pas si l'émission va être passée, quand ça va passer exactement.
Pas lundi, mais lundi d'après, ça doit être, je crois, le 2 ou le 3 octobre, je pense.
Ok.
Quelque chose comme ça.
D'accord. Alors du coup, ouais, ce sera trop tard pour backer le projet, parce que c'est aujourd'hui que ça se termine. Toi, c'est de l'actu chaud bouillante.
D'accord. Donc, mais c'est pas grave, c'est intéressant de parler d'Elisa Tig, parce que moi, je ne la connaissais pas.
Mm-hmm.
Je te laisse la présenter.
Je t'avoue que je ne la connaissais pas, mais en fait, j'ai découvert ce projet qui m'a fait penser à l'épisode rose. En fait, c'est un projet de livre sur les femmes dans l'industrie du jeu de société. Et ce livre, c'est le produit d'une jolie petite brochette de nana, donc menée par Elisa Tig, qui a travaillé dans le milieu à peu près à tous les postes possibles et imaginables depuis 15 ans. Donc elle a eu l'occasion de voir un peu la place des femmes évoluer dans le milieu. Et donc voilà, c'est sympa. Parce que
elle a été illustratrice, elle a été...
Design, elle a fait du packaging, je crois qu'elle a même été auteure, elle a été un peu...
À tous les postes.
Production, elle a fait chez Playroom, elle a fait des choses, donc pendant 11 ans. Alors, ouais, je sais pas, je peux pas te dire exactement tout ce qu'elle a fait, mais apparemment, elle a noté au cours de sa carrière pas mal de petites anecdotes, et elle a invité là pour ce livre plein d'intervenantes, et plus. Plus les stretch goals sont dépassés, plus il y a des intervenantes qui arrivent et qui viennent enrichir le livre. Et ce qui est sympa, c'est que pour juste $10, tu peux backer et avoir une version PDF du livre. Donc moi, c'est ce que je fais. Donc voilà, on pourra revenir dessus dans 6 mois à peu près quand le livre sortira.
Bon, je pense que ça va faire comme le livre d'Inassi Trevicek. On va pouvoir le trouver assez facilement ensuite. Donc effectivement, on en reparlera à ce moment-là.
Ouais.
Tu voulais nous parler aussi des sorties en boutique, puisque c'est la rentrée. Mmh. On a attendu pas mal certains jeux cet été, et ça arrive en masse en ce moment.
Ouais, alors moi, ce dont je parle, c'est les choses dont on a parlé sur Ludovox. Tout simplement parce que, du coup, c'est les choses que je connais le mieux, comme on a eu l'occasion de faire des articles dessus. Donc, ce qui arrive en boutique, là, il y a Black Fleet qui est à Coste.
Tout à fait.
Qui est très très beau.
Absolument, un gateway game je pense, mais très 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 beau.
Très très beau et très violent, comme je le dis dans mon article, on passe pas mal de temps à mourir et à revenir. Il faut avoir les nerfs solides. Il y a également le petit Souk, qui est un petit jeu de Gary Kim, qui arrive. Il y a le gros Dominant Species. Là, je ne sais pas s'il est déjà arrivé ou s'il va arriver, mais je crois qu'il
Il est arrivé, on en parle dans le dernier numéro, dans le 58, parce qu'elle arrive chez Philosophia, un gros GMT qui est francisé, et ça c'est une très bonne chose.
Et puis on a le Lords of Xidith qui se prépare là pour le 6 octobre, donc celui-là qui... on a eu l'occasion, la chance d'avoir une boîte, et ceux qui connaissaient bien Himalaya sont plutôt séduits par les apports qui ont été faits, pas forcément par la rethématisation, mais par les choix mécaniques, les petites subtilités qui ont été faites, qui sont appréciées.
Une V2 réussie, donc.
Oui, a priori. Moi, je ne connaissais pas Himalaya, donc je me fie au dire de ceux qui m'entourent, qui y ont joué, et l'article de Cormier qui a été paru la semaine dernière. Voilà. Enfin, la semaine dernière, à l'heure où je vous parle.
Il y a 15 jours à peu près. Voilà. Donc tous ces articles, tous ces jeux, on peut les retrouver sur Ludovox, des articles un peu plus complets. Mm-hmm. Vous avez envie de les découvrir ou d'aller un peu plus au fond et de voir la vie des gens, on peut les retrouver sur ludovox.fr. Mais tu voulais nous parler un peu plus... Tu as fini avec les sorties boutiques ?
Oh, il y a plein de trucs.
Alors continue, vas-y, je t'ai coupé, mais vas-y.
Non, après, il y a toute une pelletée de petites choses chez Asmodée. La nouvelle version d'Unanimo, l'extension Miniville, Music IQ, l'Arlequin, l'Illégal de Bollinger, le What the Fake, le Crazy Circus, bref, plein de petites choses. Et je ne parle pas du Jungle Speed à 42€. Je pense vous intéresser.
Jungle Speed à 42€. Si, je veux bien que tu en parles. Est-ce que le bâton est en or massif ou non, pas à ce prix-là, pas en or massif, mais en bois précieux, je ne sais pas. Qu'est-ce que...
Ouais, ils ont dû, je ne sais pas exactement en quoi ils ont fait, quel bois ils ont utilisé, mais ouais, ils sont un peu lâchés parce que c'est les 20 ans du Jungle Speed.
On en a cassé tellement des totems que maintenant.
Voilà, maintenant ils sont solides à 42€.
Et puis tu as des coups de cœur et tu voulais nous en parler en commençant par Colors of Kassam.
Oui, c'est un petit coup de cœur japonais. Je salue au passage Izo Britnik, konnichiwa, qui va nous rejoindre bientôt à l'équipe du Vox aussi, j'en suis très contente. Donc Izo Britnik qui a aidé à la traduction des règles de ce Colors of Kassam, qui est un petit jeu japonais retors et malin comme tout, donc c'est un jeu de cartes. Donc vous pourrez le trouver sur le stand de Japan Brand, évidemment, hein, pour 14 euros, un truc comme ça. Donc c'est un jeu où il faut essayer de faire des combinaisons. Donc ça peut être des suites, ça peut être juste réunir certaines cartes avec des valeurs précises, en se servant depuis une réserve de cartes communes. Sauf qu'une fois qu'on a les cartes, qu'on prend une carte dans sa main, on n'a plus le droit de la changer de place dans sa main. Et on va devoir les jouer ensuite comme on les a prises, comme elles arrivent. Voilà, donc c'est assez vicieux en fait. Le système de points aussi est un peu vicieux, parce qu'il faut parvenir à faire des couleurs, mais dans une certaine mesure, parce que si on en fait beaucoup ou si on n'en fait pas du tout, on fait des points, mais entre les deux, on fait plus de points ou presque plus. Donc, mine de rien, c'est assez retors sous son allure assez gentillet, parce qu'en fait, le thème, c'est tu dois réaliser un
kimono.
Ouais, c'est ça. Merci.
C'est le plus beau kimono possible.
Voilà, c'est un Juni Itoe. C'est une parure, en fait, avec 12 couches de kimono. Donc, c'est un truc importable, mais magnifique.
Alors, le thème va peut-être changer. C'est très compliqué de mettre la main sur un jeu Japan Brand à sa sortie. Il sera certainement rethématisé. Enfin, peut-être rethématisé. Et de toute façon, peut-être sans doute plus accessible par la suite chez AFG ou un autre éditeur. Colors of Kassan, c'est un jeu de Hinata Horiguchi chez Japan Brand, qui paraît à cet Essen pour 3 à 4 joueurs et qui dure à peu près 25 minutes. C'est un jeu de cartes. Mm-hmm. Et le deuxième jeu que tu voulais mettre un petit peu sous les spotlights, c'était, que je prenne ma note, Alchemist.
Oui, voilà. Alchemist, alors de Matus Kotri, hein, je parle tchèque couramment.
Super bien.
Ouais, t'as vu. Il avait travaillé sur la version digitale de Galaxy Trucker, alors je crois qu'elle est arrivée, le Galaxy Trucker sur iOS. Il paraît que ça dépote pas mal. Il me semble, à vérifier, parce que j'ai pas encore trop joué sur iOS, donc je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, voilà, c'est pour bientôt, si c'est pas déjà fait. Donc ce brave garçon a fait aussi un jeu de plateau qui s'appelle Alchemist, qui sera donc présenté à Essen. Et donc c'est un jeu de plateau de déduction et de pose d'ouvrier. Donc la pose d'ouvrier, c'est vraiment super à la mode en ce moment. Il y a plein de trucs à base de pose d'ouvrier qui sortent. Mais celui-là, il est sympa parce que on a aussi une appli qui permet un peu la rejouabilité dans le jeu. En fait, on incarne un alchimiste qui va devoir mixer des potions avec des ingrédients différents. Et pour ce faire, on va scanner les cartes ingrédients avec notre téléphone. Et l'appli pourra reconnaître la carte et nous donnera des informations sur les composants actifs qui sont dans les ingrédients. Et donc, on va devoir faire plein de tests pour arriver à intuiter, à deviner quels composants actifs sont dans quels ingrédients pour trouver les bons ingrédients pour notre potion.
On va faire du crafting comme Minecraft. T'essayes plein de choses et t'as des résultats. J'ai une photo à mettre sur le site pour illustrer ton propos. C'est pas évident, mais effectivement, on flash les cartes. Enfin, on prend en photo les cartes avec son smartphone et on voit bien que ça devrait donner quelque chose d'autre. Alors moi, ça me plaît bien parce qu'il risque. Enfin, je ne vois pas de choses écrites sur les cartes ou sur le plateau. Ouais. Donc c'est certainement un jeu que je vais regarder avec attention.
C'est des couleurs ou des signes, plus et moins. Et donc, à chaque partie, l'appli va assigner aléatoirement les composants pour chaque ingrédient. Puis ce qui est sympa, c'est que c'est un jeu de check, il y a de l'humour dedans. On est un alchimiste, donc la chose qui nous intéresse, nous, c'est la réputation. Donc on a envie de publier des théories à tout prix, sachant que publier une théorie, ça fait booster notre réputation. Mais il se peut très bien que nos petits camarades démontrent par la suite que notre théorie, c'était du bullshit, et nous décrédibilisent. Et là, la réputation, alors, rechute. Et il se peut aussi qu'on ait à tester nos potions sur des personnes plus ou moins consentantes, sur nous-mêmes. Voilà, donc ça peut avoir des conséquences après, par la suite, des malus, si jamais notre potion est pas bonne. Enfin, il y a des petites idées sympas, comme ça. C'est la sortie tchèque de l'année. Et je pense que, a priori, il y a aussi l'extension Tashkalar, dont on a parlé un petit peu aussi sur Ludovox. Mais le alchimiste, je sais qu'il y a beaucoup de regards portés sur lui.
À ne pas manquer.
Ouais.
Donc, alchimiste, alors je te laisse redire le nom de l'auteur.
Matt Scotry.
Voilà, chez Games Edition. Alors, c'est illustré par David Cochard. Oui. Dont on connaît la patte avec toute la série des Dungeon Lord et j'ai oublié l'autre.
Ouais. Et Dungeon Pets.
Et Dungeon Pets. Et donc ça sort cette scène et ça se joue à 2, 3 ou 4 et la partie dure 90 minutes. Mm-hmm. Alors pour finir, je sais que tu voulais nous parler de Gaïa. Alors allez voir Gaïa.
Ah oui, Gaïa.
Nous n'en parlerons pas parce qu'on a décidé de limiter un petit peu. Tu veux quand même... Ouais. Pardon ?
Censurer les Québécois,
Non, 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 justement, allez voir, c'est... Marine l'avait noté un petit peu comme chose à dire, mais on va pas avoir le temps d'en parler. Tu voulais me parler quand même du bag building, et moi j'aime bien le dice building, le card building, enfin, tout ça, donc vas-y.
Bah oui, le bag building, ça a été amorcé par Quarriors et les jeux de dice building avant, qui ont été eux-mêmes inspirés par le deck building. Et donc c'est un style là, le bag building, un mécanisme qui a l'air bien tendance là. On a eu l'occasion de parler donc de King's Pooch, qui est un jeu coréen, et d'Orléans. J'ai fait une grosse preview là sur Orléans de Rainer Stockhausen, qui sera chez DLP. Donc ce sont deux jeux.
DLP, excuse-moi, c'est
DLP. DLP, c'est ceux qui avaient fait Citrus l'année dernière.
D'accord, ok.
Je sais que Geeklet, si elle nous écoute, avait beaucoup aimé. c'est un peu, je sais pas si vous connaissez Steam Park.
Ouais.
Voilà, donc on a des petits cubes. Alors dans King's Pooch, c'est des petits cubes qui vont symboliser des citoyens, qui peuvent être des marchands, des fonctionnaires, des soldats, des clercs. Et donc, ils ont des tailles ou des formes différentes qu'on peut palper dans le sac pour essayer de piocher le truc qui nous va bien. Comme ça, on a notre petite réserve de citoyens qui dort dans le sac. Et puis, à votre tour, vous piochez des citoyens disponibles. Vous les envoyez bosser, donc avec un système classique de pose d'ouvriers.
Ça va plus loin que mettre simplement des dés dans un sac. C'est aussi, tu as la question de rechercher à l'aveugle la forme, ce que tu veux. Par contre, les couleurs, ça se voit pas.
Non, mais oui, il y a toujours une part très tard, quand même. Enfin, de probabilité, parce que tu vas essayer de mettre dans ton sac le plus possible de choses qui t'intéressent pour essayer de tomber dessus après, mais ça reste hasardeux un petit peu.
Ok, ben écoute, Marine, je te remercie énormément de ta participation. Tu as mis en lumière des choses que nous, on aurait un peu zappé. Donc, c'est très, 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 très bien. Donc, les articles des jeux dont tu nous as parlé, on peut les retrouver sur ludovox.fr. J'ai vu qu'il y avait une création, on pouvait customiser son profil, qu'on pouvait avoir, on pouvait voir d'un seul coup d'œil si les gens sur Ludovox étaient des joueurs de cube en bois ou des partisans de la Ligia, c'est très bien. Merci beaucoup, et puis on te retrouve le mois prochain.
Eh ben avec plaisir, merci de m'avoir invité.
Plaisir est chez nous. Merci beaucoup, Marilyn. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Voilà.
Très intéressant.
Avec ton chaîne, là.
Ah bah. Ouais, il faut. Etienne, est-ce que tu connais Alchemist qui va sortir chez les.
Chez qui
Check Game Edition.
Non.
Qui allie, en fait, c'est un jeu où tu vas pouvoir, avec ton smartphone, donner, crafter en fait des cartes. Tu vas avoir des produits que tu vas pouvoir mettre ensemble. Ouais. Et ce que ça va te donner.
D'accord.
Va sortir en fonction du
mais
programme interne.
Mais que sur téléphone, en fait.
Ça joue avec le téléphone. Okay. Donc, pour SN, Alchemist.
Ah bah, tout de suite.
Un jeu à aller voir au moins.
D'accord.
En vrac, on reparle de Massilia. Alors, c'est intéressant, puisque tu viens, entre autres, nous parler de World of Yo, qui va sortir en Kickstarter. Ouais. Massilia, c'est un peu un emblème. C'est un. Comment dire? C'est malheureusement.
C'est le péché originel.
C'est malheureusement le Kickstarter qui s'est mal passé.
Et sur les tout premiers, en plus. Tu es au courant?
Oui, j'ai un peu suivi. Mais c'était un Kickstarter ou
c'était un Ulule.
Ah, Ulule,
c'était un Ulule.
Oui, on n'est pas participatif, quoi.
Ouais, c'est pareil. Parce que,
oui, non, mais c'était pas un Kickstarter.
Non, parce que Kickstarter, il faut être aux US, là, il n'était pas. Ouais. Donc, oui, il était parti, il avait fait pour pas livrer. Et finalement, c'est chez qui? C'est chez What Gomez.
Ça a été repris.
Oui, il est repris. Non, ouais. Et du coup, ils vont, mais j'ai pas encore bien compris, par contre, si tous les backers vont avoir le droit à.
Ben, j'ai compris ça, moi, qu'il fallait que les backers se fassent connaître, et c'est Queen qui allait essayer de leur donner un jeu.
QWG, ouais, c'est ça, je peux commencer. Alors,
Queen. Ouais.
Dans le domaine du jeu vidéo, il y a, je sais plus qui, pareil, il y a des gens qui ont remboursé aussi, qui, voilà, qui ont estimé après 9 mois en jeu vidéo. Hein, donc il n'y a pas de matériel là. Ouais. Mais en disant, voilà, on a travaillé 9 mois, on n'y arrive pas, donc on vous rembourse tous.
Ouais, mais là c'est bien, mais l'occurrence là, voilà. Il n'avait pas remboursé.
Oui, il n'avait pas remboursé. Non, mais là, si dans ta vie, tu veux continuer un peu à travailler dans ce domaine, pas trop se planter, voilà. Donc ouais. Il faut être en tout cas super,
ouais,
clair.
Tu non, mais c'est clair. Tu peux être honnête et remboursé.
Voilà, tu peux être honnête. Ça peut arriver hein, de pas y arriver. Voilà, surtout dans le jeu vidéo, on peut tomber sur des choses très,
ah oui.
soit des choses techniques, soit le jeu. Bah, on a vu, c'est quoi, il y a deux jours, Blizzard quand même qui a abandonné un jeu après 7 ans. Donc le futur World of Warcraft, ils ont arrêté. Voilà, c'est simple. Donc ils ont les reins solides, hein, parce que 7 ans de travail pour au moins 500 personnes, ça doit être un peu violent.
Ouais.
Mais honnêtement, ils ont dit, on n'arrive pas à trouver, quoi, le fun.
Ah ouais.
Voilà, au moins c'est honnête et en disant, mais de toute façon, le prochain il sera encore mieux. Voilà. Quand on les croit, parce
dans
que d'habitude. Non, mais c'est ça. Bah, non, mais StarCraft, ils ont abandonné StarCraft Ghost, par exemple. Voilà, ils sont capables. C'est des gens qui sont capables de dire à un moment donné de prendre la décision, on ne le sort pas.
Qui ne va pas être facile à prendre. Mais...
Ah non, parce que j'imagine en interne, quand vous avez travaillé pendant 7 ans sur un projet et on vous dit, ben, en fait, celui-là, il passe à la poubelle.
Alors, tout n'est pas perdu. Il y a peut-être une partie du dev qui peut rester.
Bien sûr, oui, bien sûr. Mais quand même, ça doit faire un peu mal au cœur. Hein.
Ouais, ouais.
Un petit coup de déprime, je pense.
Je pense qu'on est arrivé à une nouvelle étape de financement participatif où on va. Il y avoir le balancier parti d'un côté où on a dit on fait un Kickstarter comme ça on pourra partir aux Bahamas en vacances et là on revient sur quelque chose de plus sain, c'est bien, c'est une bonne chose.
Oui, ça va s'équilibrer, ça.
Ça m'allait bien, moi, les Bahamas.
Ah, c'est trop tard pour notre Kickstarter. Freedom, The Underground Railroad, en français chez Asynchrone.
Asynchrone, voilà, il l'annonce, alors j'ai pas plus d'infos, mais c'est juste pour dire, comme il est déjà nominé dans plusieurs prix, c'est un jeu coop quand même, mais a priori qui est très intéressant à jouer. Il est en anglais, mais oui, parce qu'il doit être chez Academia Games, je crois, donc Asynchrone est le partenaire français traditionnel, je vais dire. Donc du coup, voilà, ça paraît assez logique qu'il sorte en français, donc vous n'êtes pas obligé de vous précipiter sur une boîte anglaise. Je vous conseille maintenant d'attendre la version française, c'est en général...
C'est mieux
traduit, et vous pourrez jouer avec plus de monde.
Oui, c'est ça. C'est
tu
ça,
peux jouer avec tes enfants. Non, c'est pas fait, c'est pas le sujet qui est fait pour, mais...
Moi, j'arrête de... Ouais, oui. J'arrête d'acheter des jeux en anglais. Mission Control, créez vos propres missions pour X-Wing. Alors, c'est une application mobile pour créer des missions et après pouvoir les partager.
C'est pas forcément mobile, hein, ça marche dans les navigateurs. Enfin, oui, ils disent pas mobile, mais dans les navigateurs. Ouais, tu peux créer tes missions et les partager avec la communauté.
Ah non, les mobile devices are not supported at this time. Non, c'est...
Voilà.
Lire la phrase, mais jusqu'au bout. Donc, c'est bien une application, mais pas sur les devices mobiles.
C'est en open beta, donc je vous donnerai le lien. Ça permet quand même. Enfin, je trouve ça super bien parce que X-Wing, c'est un jeu qui marche du tonnerre. Je pense que tout le monde dans son coin, quand il joue bien, a envie de créer ses missions. Ils ont fait des concours, des trucs comme ça. Et ben là, ça vous permettra en plus de les partager plus facilement avec la communauté et surtout de voir aussi les jeux de la communauté.
Un relooking pour Carcassonne.
Incroyable, le
mais
jeu.
Mais j'ai beau voir la photo. Ans,
si, regarde.
Et je ne vois pas.
Si, en bas à gauche.
Regarde, en fait, c'est parce qu'ils ont mélangé deux types de tuiles sur la photo. En fait, ouais, ils vont relooker Carcassonne. Donc,
parce qu'ils sont passés en 1080p, ils ont mis des.
Ils sont Retina.
Ouais, c'est ça.
C'est Carcassonne Retina. En fait, on retrouve un peu plus d'effets d'ombrage, etc. C'est sur les tuiles. Bah, en fait, c'est un peu plus moderne. Même la couve du jeu, là, tu l'as pas, mais si tu cliques sur un des liens, tu verras, la couve du jeu change. On retrouve un graphisme beaucoup plus. Année 2010, quoi. Non, mais.
Là, on arrive en 2000. On n'est pas toujours pour 2014. On a fait des progrès.
Je trouve qu'on est dans la façon d'illustrer, pas les jeux français. Les jeux français, ils sont toujours un cran au-dessus en termes d'illustration. Mais je trouve qu'on est dans la façon que les Allemands ou que les Américains illustrent maintenant leurs jeux. Je sais pas si tu vois, Étienne, mais les villes, etc., elles sont un petit peu différentes. Alors attention, parce que ça veut dire qu'à terme, je sais pas comment ça va se passer au niveau des extensions. On parle du Carcassonne bleu. Hein. Ça veut dire que toutes les extensions, est-ce qu'ils vont les relooker? Est-ce que donc si vous avez l'ancienne version de Carcassonne, ou bien vous craquez pour la prochaine, qui devrait être dispo des Essen. Et puis vous jouerez avec des tuiles un peu de couleurs différentes, enfin du coup de l'aspect différent, ça va pas être très beau. Hein. Soyons puristes, allons jusqu'au bout.
Non, mais c'est pour les nouveaux arrivants. De toute façon, Carcassonne, c'est toujours un. Enfin, tu vois, j'ai acheté mon premier Carcassonne, c'est pour dire que ça reste.
Mais c'était
un
pas
jeu.
Ton premier.
Non, c'était pas mon premier, mais c'est son premier.
Mais par contre, ouais, mais pour ceux qui ont déjà toute la collection et qui vont, tu sais pas, peut-être la prochaine extension, elle sera relook.
Non, je vais pas racheter.
Je ne pense pas.
Bref. On voulait vous dire aussi que Cocktail Games met en ligne toutes les semaines une sélection de boutiques. Alors nous, parce que dans Proxy Jeux, il y a proximité. parce que dans Proxy Jeux, il y a proximité. On voulait aussi vous dire que Cocktail Game met en ligne toutes les semaines une boutique et met en lumière une boutique. C'est sur le site et puis ils ont même une carte. Et puis c'est repris par Martin Wittberg dans la sélection du dimanche. Donc c'est une très belle initiative parce que, comme on le sait, et merci encore à Philibert, c'est ces gens-là qui font aussi vivre le jeu. Donc c'est important de les soutenir. On passe aux sorties.
T'es comme ça, toi.
Ouais, je te propose, tu avant de passer aux sorties, bon. Tout à fait, de, j'ai dit que j'avais le fouet aujourd'hui, c'est ça.
Une demi-heure.
Ça change, quoi. Les gens qui aiment l'actu dans Proxy Jeux vont être déçus.
Non, il y a plein de choses. L'actu, elle vient pas que de nous, mais il y a plein de choses. Tu voulais me parler aussi de Discover Takenoko sur iOS, mais est-ce qu'on a besoin encore de découvrir Takenoko sur Android, sur iOS, sur nos smartphones?
C'est pour ceux qui ne veulent pas lire la règle, comme c'est un jeu qui est quand même à destination du grand public.
Ne pas lire la règle. Et c'est là que tu vois que les gens ne veulent vraiment pas lire les règles. Parce que si je me trompe pas, c'est écrit sous forme d'histoire, de BD.
Non, il y a la BD au début, mais qui amène pas. Non, après il y a une règle qui est écrite, qui est pas la plus, mais qui est pas la meilleure des règles.
Ouais.
Et donc ils amènent aux gens une façon de découvrir Takenoko via une application. J'ai vu ça juste avant de partir, donc j'ai balancé le lien dans le conducteur. J'ai pas du tout téléchargé l'appli.
Est-ce que vous avez posé des questions? Est-ce qu'il y a un tutoriel pour World of Yo-Ho?
Ah, bien sûr, ouais.
Donc, bien sûr.
Ouais. Ah oui.
Attention. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y aura, alors, tout est dématérialisé, enfin, il y a une partie du jeu qui est dématérialisée. Ouais. Le tutoriel aussi, est-ce qu'il y aura une vraie règle dedans?
Alors oui, on va mettre une vraie règle parce que c'est un vrai jeu avec un double plateau même. Mm-hmm. On va avoir des tokens, peut-être des figurines, on verra. Il y a du matériel en fait. On va avoir pas mal de matériel, mais en testant, on s'est aperçu que dès qu'il y a un écran, personne lit la règle.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on se jette dessus vite.
On veut jouer.
Non, on veut jouer. Voilà. Non, mais ça c'est vraiment la grosse différence entre le jeu vidéo et le mais même tout ce qui est sur écran. Hein. Par exemple, moi je suis graphiste, personne n'a lu la règle de Photoshop, hein. Mode d'emploi. On la découvre petit à petit et au bout de 10 ans, on rouvre le mode d'emploi. Ah ouais, il peut faire ça, c'est extraordinaire.
Photoshop, il y a de quoi jouer.
Non, mais voilà, tous ces gros softs, en fait, on l'apprend d'une manière itérative, en fait. On teste, c'est très. Enfin, je sais pas, l'écran a l'air. Pousse au jeu, en fait. On essaye, on teste. Et alors qu'un jeu de plateau, ou même un jeu de cartes, hein, essayer de jouer.
C'est-à-dire que tu peux faire undo dans un truc. Voilà, non, mais. Plus difficilement faire sur plateau.
C'est le principe entre l'induction et la déduction. C'est-à-dire que une règle du jeu classique de jeu de plateau, on va la déduire. C'est-à-dire qu'on lit une règle générale et on en déduit un cas particulier. C'est-à-dire qu'on me dit qu'en général, je dis n'importe quoi, les pions rouges mangent les pions bleus. Donc, dans mon cas précis, je vais en déduire ça. Alors que dans les jeux vidéo, on dit quoi, sur écran, c'est l'induction, c'est le contraire. On part d'un cas particulier et on en induit une règle générale. Et c'est nous qui créons. Voilà. Donc, c'est deux principes assez c'est fondamental et c'est très compliqué en fait. On en parlera après, mais nous, on travaille juste entre les deux. Et c'est vrai que l'écran, en tout cas, en faisant des tests, dès que vous mettez un écran dans les mains de quelqu'un, il veut jouer. C'est-à-dire que bon ben là, c'est parti. Et si on lui met mais de toute façon, on va quand même garder une règle du jeu parce que une fois qu'on a joué une ou deux fois, ben on veut comprendre un peu mieux les mécanismes du jeu et c'est toujours intéressant de dire ah oui, telle caractéristique va vraiment améliorer ça. Ah oui, il y a ça aussi comme carte, je l'avais pas vu, voilà.
Ce qui des fois manque quand même effectivement, c'est de pouvoir avoir une référence après comme dans le jeu vidéo où c'est vrai que tu as toujours envie de te lancer dans une partie et tout, mais après au moment tu dis bon attends, j'aimerais mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais
souvent ce qu'on fait à Volumique, là, on teste pas mal de choses de jeu le vendredi. Donc il y en a toujours un qui soit il a déjà joué, soit il va dire les règles, et c'est vrai qu'on fait une partie et le soir c'est sûr que tout le monde relit la règle ou le lendemain. Non, ouais. Mais pour dire ah, j'ai bien compris le jeu, mais en relisant la règle d'abord on la comprend beaucoup mieux, les tenants et les aboutissants, et surtout on imagine des nouvelles stratégies en disant ah oui on peut faire ça, et c'est super intéressant. Donc on va avoir dans notre projet, nous les deux, c'est-à-dire qu'on a un tutoriel, hein, puisqu'au début c'est ce que j'ai fait un peu dans la démo, voilà, déplacez-vous, cliquez là pour aller dans le port, cliquez là pour attaquer, voilà, truc très simple au départ, hein. On appelle ça le mode croisière, même il y a un mode solo. On va se promener d'abord et après on va rentrer dans des choses un peu plus complexes, mais petit à petit, on va faire ça comme. En fait, c'est structuré comme un jeu vidéo, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et après, le jeu, on va dire, vous êtes grand, vous allez dans le grand bain. Voilà.
Voilà, cher auditeur, toi aussi, il va falloir que tu attendes un petit peu, au moins une semaine, pour avoir le deuxième épisode et écouter Étienne nous parler de World of Yo-Ho.
Ah, il fait des teasers comme ça.
Ben oui, mais il faut, mais t'as tellement bien parlé de. C'était vraiment le moment d'en parler. Jérémy ?
Oui ?
Les sorties.
Les sorties, il n'y a pas grand-chose en sortie.
Non, pas grand-chose.
Pas grand-chose. Non, en fait, je n'ai pas recensé toutes les sorties catalogue parce qu'on ne va pas y arriver. D'autant que ça n'arrive, donc en matière de sortie, vous allez être servi, vous allez plus savoir où donner de la tête.
C'est surtout les sorties sur écran que nous a listées, non ?
Je sais pas. Tiens, le vidéo reportage de Space Cowboy, je sais pas pourquoi il est là.
Alors, Galaxy Trucker en approche imminente sur iOS. Marilyn nous en a parlé.
Ok.
On a dit que ça arrivait, justement, on parlait d'Alchimiste. Est-ce que c'est là ou pas ?
C'est pas encore là pendant qu'on enregistre, mais vu nos délais, je pense que ça sera en ligne. Parce qu'en fait, ça a été soumis à sur l'App Store la semaine dernière.
Ah, mais c'est bon, c'est dans 8 jours.
Ouais, donc, jours. Et typiquement, ils font les sorties le vendredi. Donc, je pense que vendredi prochain. Donc, vous nous
au moment où vous écoutez, c'est.
Deux jours avant que, cet épisode soit en ligne, puisqu'il nous reste encore un épisode de l'épisode précédent.
Ouais, qui arrivera dimanche.
Voilà. Oui, il faut que je fasse le billet. Et c'est bon, je fais demain, on est dans les dents, c'est impeccable. Quelle équipe.
Saison 5 là.
Galaxy Trucker, il était testable déjà en pré-version, en bêta à Essen l'année dernière. Certains l'avaient essayé, dont Merlin. Et m'a dit que c'était pas mal, c'est assez bluffant. C'est vrai que c'est un jeu normalement qui joue en rapidité, il faut piocher des tuiles au centre de la table pour construire ton vaisseau. Après, il y a une phase d'exploration où là, je pense qu'effectivement, encore une fois, l'iPad va aider. À gérer cet aspect-là. Par contre, l'aspect pioche frénétique, c'est peut-être moins facile.
Non, mais je pense que c'est un petit peu. Je le vois comme. Je vais te redire ça tout de suite. Vas-y.
D'accord. Vas-y. Dans les nouveautés, dans les sorties.
Ah non, attends, bah, si tu passes à autre chose. Je le vois un peu comme Suburbia, c'est-à-dire un jeu où, qui prend un peu plus de sens porté sur écran. C'est-à-dire que Suburbia, moi, j'y jouerais pas. En vrai, parce que le décompte des points, parce que la réflexion, parce que ça prend trop de temps. Mais en tant que puzzle sur mon iPad, ça va très bien.
Ouais.
Et sans doute que ça sera un autre jeu, ça sera pas le même jeu, mais que je vais peut-être apprécier Galaxy Trucker porté sur écran.
C'est comme moi, j'ai beaucoup aimé le jeu de Catala, Mr. Jack Pocket.
Mm-hmm. Oui.
En fait, je suis pas trop un fan en vrai, entre guillemets, en vrai en boîte. J'avais vu, j'ai dit ok, mais alors vraiment en jeu solo. Où là c'est un vrai casse-tête.
L'IA est bonne en plus, donc du coup.
Ah ouais, elle est super. elle est même très très costaud. Mais je trouve qu'il prend son sens. C'est des jeux qui s'adaptent très très bien. Oui. Ben voilà, c'est des mécanismes qui marchent très très bien sur un téléphone ou une tablette, hein, quel que soit le support. Mais en tout cas, ça marche très bien. Et alors que des fois, voilà, là ce jeu là, je sais pas du tout comment ils vont l'adapter. Mais vraiment, il y a toute une question à se poser sur vraiment la réalisation, l'adaptation. Quoi. Est-ce que ce jeu vaut la peine ou pas ? Mais des jeux comme ça là, de un peu. Ou vraiment ces heures de casse-tête quoi. Voilà, et ça,
ouais,
ça,
quand c'est un peu trop mécanique.
Ça marche très très bien.
Leaping Lemming, disponible sur iPad.
C'est le premier jeu que GMT porte en version iOS. C'est vrai qu'ils voulaient en porter d'autres, dont le fameux Twilight Struggle dont on reparlera, je ne sais encore combien de fois.
Genre peut-être.
Voilà, Leaping Lemming, c'est un jeu justement qui est un petit peu mécanique, etc. Où du coup l'iPad va prendre son sens. Je vous mettrai le lien vers les reviews, elles sont correctes. En gros, il y a un mode uniquement solo contre des IA qui ont l'air faibles, là, par contre, justement. Donc ça, c'est dommage. Où tu joues en pass and play. Donc ça, c'est un peu le côté dommage de ne pas pouvoir jouer en ligne. Bon, en même temps, moi, je ne joue pas en ligne, mais beaucoup de gens, enfin, je crois que beaucoup de gens quand même aiment jouer en ligne. Donc voilà, c'est que en anglais. Le tuto, il est pas terrible pour toi qui es du monde du jeu vidéo. Mais chez GMT, on avait déjà joué à Dominant Species, c'est un peu pareil. Le tuto, il est très léger et justement, t'es obligé de retourner lire la règle parce que tu t'en sors pas. Mais a priori, dans les reviews, j'ai vu que le jeu reste assez fun à jouer avec un certain nombre de choix. Donc c'est à 2,69€ sur le l'App Store. Une version Android n'est pas prévue pour le moment.
Et attention, peut-être petit problème sous iOS 8.
Ouais, bah tout, ça, beaucoup de jeux, on est pas mal avec iOS 8 en ce moment. Hein.
Ascension arrive bientôt sur Vita, et toi t'as une Vita ?
Ouais, j'ai une Vita, mais j'ai déjà Ascension version 4, déjà en version iOS avec toutes les extensions. Sur Android, il est gratuit. Ils ont enfin corrigé le bug des écrans noirs sur Android, déjà, c'était pas mal aussi. Et ouais, il semblerait que Ascension débarque sur la PS Vita. Pourquoi pas ? Je suis étonné parce que la Vita, c'est pas une console qui se vende en grosse quantité, quoi, et... Mais bon, il doit vouloir, je pense que c'est une volonté d'élargir exactement. Mmh. Pourquoi pas.
Et puis, on vous irait sur le site, on vous mettra un lien vers une petite application qui s'appelle Select ou sur Android pour choisir le premier joueur.
C'est génial.
C'est gratuit. C'est génial, tu dis ?
C'est tout con. En fait, d'accord. Chacun met son doigt. Encore une fois, l'intérêt de l'application qui vient aider, c'est gratuit. Tout le monde met son doigt dessus. On peut mettre jusqu'à 20 doigts.
T'as une petite décharge électrique ?
Ouais, il y a une décharge, non, et puis tout, il fait un décompte 3, 2, 1, et tout est fait qu'il en choisit un au hasard, c'est le premier joueur.
Okay.
Ça prend 2 secondes et c'est tout bête, et finalement c'est pas mal d'avoir ça sur soi.
En termes de sortie en boutique, de nouvelles extensions pour Small World, Dans la toile et Royal Bonus, et puis L'île du Nécromant, mais il n'était pas déjà sorti ?
Il était un bonus avant.
Les chefs de Small World.
Et les chefs de Small World, L'île du Nécromant, c'était des goodies qui avaient été distribués au gré des salons, des choses comme ça, et là, qui vont être en vente à 5 euros.
D'accord.
Royal Bonus, c'est pareil, c'est une compilation de certaines goodies qui avaient été disponibles aux US et qui seront jouables. Et Dans la toile, je ne sais plus, il y a 3-4 peuples, etc., et nouveaux pouvoirs pour étoffer son Small World, et de nouveau des boîtes pour ranger tout ça, parce que... il n'y avait plus de boîte.
Ça, on parle de un petit peu négociation, des jeux un peu chafouins, ça rentre là-dedans, Small World, vous avez peut-être joué vous à Vinci ?
Non, pas Vinci, mais Small World, Small pas World, mal. Ouais, pas mal. Et c'est marrant parce que Small World, c'est le premier même bon portage, on va dire, sur iOS.
Ouais,
hein.
Ouais, ouais.
Moi, je suis prof dans différentes écoles aussi, enfin un peu moins maintenant, j'ai moins le temps, mais j'avais amené justement Small World quand il est sorti en boîte pour faire tester à mes étudiants. Alors, on fait du game, c'est entre le game design, bon, design interactif, ouais, ça a plein de noms, mais je leur avais amené la boîte et mes étudiants de 22 ans l'avaient dit, oh là là, commencez à lire la règle et tout.
Encore.
Non, mais vraiment, il faut lire, voilà, exactement. Et juste la semaine suivante, voilà, sort l'application iOS. Ouais. Et en fait, c'était intéressant parce que d'abord, je leur ai montré en tant que game design, interface, la manière dont c'était géré, parce
le
que
portage,
c'est très intéressant. On a un grand plateau et tout d'un coup, on a quand même un tout petit écran. Hein. Ouais. Quelle manière on va gérer ça ? Ascension, par exemple, c'est plutôt bien fait parce que les cartes, elles sont quand même bien touffues. Moi, le graphisme me fait bien rire, mais il est super dense. Tu vois, c'est pas un truc très minimaliste. Hein. Et ils arrivent, même sur un iPhone, on arrive à y jouer quand même. Hein, ce qui est...
ouais, tu
on est limite. Non, mais voilà, il y a toute une gestion assez intéressante de je peux zoomer, je peux. Voilà. Donc, ça, je leur avais montré. Et en fait, on avait commencé donc à faire des parties. Là, c'était juste à deux hein, sur iPad. Mmh. Bah, après, on avait joué au jeu de plateau. Donc, c'était intéressant parce qu'on avait vraiment vu la logique, même commerciale à la rigueur, de dire voilà, je sors une boîte, je sors le jeu en iPad. Coûtait 1 ou 2 euros, enfin je sais plus exactement, mais
il a
jamais été très.
En tout cas, je l'ai acheté.
Mais ça fait rien,
j'ai acheté. Voilà. Non, mais en tout cas, beaucoup moins cher que la boîte.
Tout à fait.
En tout cas, un différentiel énorme. Mais après, ils ont tous, pas tous, mais une majorité, a acheté la boîte parce qu'en plus, ils voulaient jouer à 4 ou 5. Mmh. Voilà, c'est ça qui était intéressant.
Oui, oui.
Et donc là, c'était une vraie mécanique intéressante de dire voilà, en plus, ils en ont vendu beaucoup, je crois, sous iOS, mais. Sous iOS ou Android, mais je ne sais pas combien, il y a des centaines de millions d'applications, donc on est perdu là-dedans. Je ne pense pas, enfin, très très peu de chances de devenir riche ou en tout cas même d'équilibrer avec les applis.
Non.
Mais par contre, quand on a.
En relais com.
En communication ou même en tutoriel, en fait. C'est une sorte de tutoriel de dire ben voilà, cette mécanique t'intéresse, tu t'es bien amusé soit tout seul, soit à deux, ben maintenant te propose le jeu avec la boîte, fais-toi plaisir et en plus, tu vas pouvoir jouer avec tes 5 ou 6 copains autour de la table. Et ça marche. Enfin, sur Small World, ça a super bien marché et en plus, il était très très bien adapté.
Oui, ils sont très...
bravo.
Et c'est un des tout premiers jeux sortis sur iPad. Dès que l'iPad est sorti, 2 mois après, ils ont été très forts là-dessus.
Ouais. Ticket to Ride qui est aussi
c'est Gérald, en fait c'est la même équipe, mes développeurs viennent, c'est les anciennes Virtuals en fait. Voilà, c'est la même équipe
parce qu'ils ont un passé, c'est pareil, les Offenders, ils ont un passé vidéo,
oui, voilà,
vidéo
c'est Gérald, enfin voilà, nous il y a Julien, voilà, donc en gros l'équipe des développeurs avec qui on travaille, en fait il y avait une équipe, il y avait une boîte qui s'appelait Virtuals à Paris qui faisait du middleware pour les jeux vidéo, donc middleware c'est des outils pour les gens qui font des jeux vidéo, donc on est assez pointu là-dedans, donc vraiment pour tout ce qui était 3D, temps réel et compagnie. La boîte a bien marché et donc ils sont vraiment très proches des jeux vidéo. Ils ont été rachetés par Dassault Systèmes et donc après tout le monde a fait bon au revoir, je vais me promener ailleurs. Et donc il y en a qui sont allés chez Days of Founder, deux chez Volumic, il y en a chez Apple, chez Google, enfin voilà, c'est reparti chez Gameloft, chez Ubisoft, voilà, ça s'est réparti partout.
Ah oui,
et donc c'est des gens très pointus, ils ont 35-40 ans, donc ils ont presque 20 ans d'expérience et donc ils se sont adaptés très vite à ça et ce sont des joueurs, voilà. Mais en tout cas, c'est toute une petite bande là et puis les outils se sont développés parce que là, quand il est sorti Small World, c'était vraiment tout en objectif C, il n'y avait pas d'Android qui existait.
Oui, ils ont refait une nouvelle version.
Là, c'était vraiment bravo hein, parce que et elle marchait très bien.
C'est un beau projet. Et pour juste redire le côté marketing chez Days of Founder, je le rappelle, on l'a déjà dit il y a quelques années, mais ils savent orchestrer les ventes, puisque quand ils rendent l'application Ticket to Ride sur iPhone gratuite, derrière, ils vendent énormément de boîtes dans les jours qui suivent.
Non, mais c'est une vraie, c'est une vraie alchimie, hein, justement, et c'est vraiment là, c'est une manière de vendre des jeux différentes et de le faire connaître aussi, puisqu'on ne s'adresse pas au même public. Moi, j'avais fait connaître, pas tout seul, mais Small World, j'ai des amis, c'est des Français, mais qui étaient au MIT à Boston, donc des chercheurs, des ingénieurs, des choses comme ça, et qui cherchaient, ils étaient bloqués sur des Monopoly, quoi. Ils cherchaient des jeux, c'était pas du tout gamer, ils disaient, il y a quoi. Et via l'iPad, je leur ai fait télécharger ça, Et après, ils ont tous acheté la boîte aussi. Voilà, ils ont fait.
Ah ouais.
Ils étaient plus proches du numérique, donc ça a été une porte d'entrée. C'est-à-dire, c'est une très bonne porte d'entrée vers le jeu de société un peu plus contemporain. Parce que voilà. C'est vrai que quand on arrive dans une boutique Philibert ou Descartes à Paris, on arrive, on est un peu impressionné.
Il y a des très bons vendeurs qui sont là pour
conseiller. Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'au début, on voit des boîtes, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, t'es perdu.
Voilà, moi, je connais Angry Birds. Et voilà, est-ce qu'il y aurait des choses un peu plus intéressantes? Oui, oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, eux, vraiment, c'est des pionniers là-dedans. Et c'est vrai qu'ils orchestrent ça. Et même les Kickstarter, ils ont fait des choses très bien.
Et c'est pour ça qu'ils ont été rachetés par Asmodée.
Bah oui, comme ça.
C'est pour leurs compétences.
Voilà. Oui, je pense que c'est surtout ça, en fait, le marché américain et surtout comment on appelle ça là. Je perds mes mots. L'articulation, on va dire, entre le support numérique et le support physique, qui est vraiment très bien.
Une toute dernière news dans ce podcast d'actuel numéro 59 de la nouvelle saison. Coconut débarque chez Gigamix sous le nom de Coco King. On va finir
Coconut sur une pointure du jeu Core Gamer,
n'est-ce pas?
Coconut, si vous n'avez pas entendu parler, je ne sais pas si c'est le jeu.
Dis-moi qu'il est bon ce jeu en fait.
Tu sais, c'est un jeu débile qui fait que ça marche.
Ah oui,
c'est le jeu avec des singes, c'est un jeu d'adresse.
C'est celui-là.
Avec des singes avec des bras à ressort, là tu vas devoir remonter et pouvoir tirer. Ensuite, tu lâches et ça catapulte une noix de coco dans les gobelets des adversaires pour leur piquer les...
C'est le nouveau Looping Louis, tu veux dire?
C'est ça, exactement. Et donc, c'est Gigamix qui s'en occupera en France. Alors, je crois pas qu'il soit encore dispo. Il est marqué en nouveauté, mais je crois pas. J'ai pas mes notes Essen là juste sous les yeux parce que je sais que j'ai la liste des jeux Gigamix qui seront Essen, je crois pas l'avoir vu. Et je sais déjà qu'il y aura un coconut deux joueurs. Parce que c'est vrai qu'avec la boîte à jouer à 4, t'aurais jamais pensé pouvoir y jouer à 2, tu vois. Donc ils sortent une boîte spéciale duel. Mmh. Pas chez Gigamix, mais chez l'éditeur original. C'est des Coréens, tu sais, en général, ils s'habituent à copier. Donc ils se copient eux-mêmes. Là.
Ok, eh ben voilà, on n'est pas habitué à tracer comme ça.
Ah bah oui, on en a combien là?
On est à peu près 1h10, je pense. Je vais couper un peu, on va peut-être descendre à 1h05. Faites-nous un retour, pardon.
Ouais, on a le concours Philibert, on est peut-être là.
Oui, alors avant de conclure, on va juste remercier notre sponsor. Un petit concours des familles pour gagner 5€.
Un bon d'achat 5€ pour une commande de 50€ sur tout le catalogue.
Les frais de port.
Ouais, en gros, ça couvre les frais de port. Mais si vous êtes à 60€ de commande, de toute façon, vous avez les frais de port gratuits.
Donc, 60?
Ouais.
Non, c'est bien.
Bah oui, oui.
Je crois que c'est 75, mais c'est bien.
Non, c'est très vite fait. Hein. Tu mets un zombie king, c'est presque. Alors,
deux.
Un zombie king, c'est bon.
Et c'est bon. Alors la question, attention, c'est quelle est l'épice d'origine indienne qui accompagne le plat principal des Philly Boys pendant le salon d'Essen? C'est à taper tout en majuscule. C'est 5 lettres tout en majuscule à taper.
Commençons par un.
Alors, vous essayez un 26 exposant 5, vous allez trouver nécessairement le bon code. Bon, c'est très facile. Je pense qu'on en reparlera de toute façon un petit peu. Tu vas parler de la gastronomie allemande dans la suite.
Ok. Bon, j'espère que vous appréciez notre nouvelle formule. On vous dit à dans une semaine pour écouter, j'espère, un épisode qui sera passionnant avec Étienne Mineur des Volumiques, qui va nous proposer, qui va nous parler des éditions Volumiques, qui va nous parler de World of Yo-Ho, qui va nous parler du changement du jeu de société qu'on attend avec digitalisation.
Alors digital, c'est numérisation.
La numérisation.
Digital, c'est plutôt anglais en fait. Ouais.
Donc ça sera la semaine prochaine. Donc on va en rester là. Et puis en attendant, on vous dit jouez bien.
Je suis Jérémy. C'est pas dans le script. C'est marqué je suis Olivier. Faut que ce soit toi qui commence. Moi je suis perdu. Hein.
Je suis Olivier.
Je peux pas dire je suis Olivier.
On s'en fout, tu veux dire que Olivier. Personne ne comprend rien de toute façon.
Non, et puis t'auras ma photo.
Vas-y.
À votre tour, vous piochez des citoyens disponibles, vous les envoyez bosser, donc avec un système classique de pause d'ouvriers, et puis vous les renvoyez ensuite. Entrez.
15h20, il est 15h20. Ah.
Attends, 2 secondes, il faut que j'aille ouvrir la porte.
Vas-y.